la guerre,
des blessés,
la mort, la violence,
le froid, les témoignages.
La troisième Pavin présente Guerre mondiale, le choc des générations sur Radio Campus.
93.3.
Bonjour à tous
et à toutes.
Bienvenue sur le plateau de Radio Campus.
Nous sommes des élèves de 3e au collège Saint-Écle et aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler des deux guerres mondiales à travers des témoignages.
Le premier groupe, celui d'Antoine Barnowski et de Esteban, va vous présenter les conditions de vie des soldats pendant la guerre 14-18 à travers une lettre de Poilu.
À vous les studios.
Les lettres des Poilus.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les conditions de vie de nos soldats durant la Première Guerre mondiale à travers des témoignages de soldats.
Une lettre d'Émile Sautour, originaire de Gillac, en Corrèze. Il appartenait au 131e régiment d'infanterie. Il a été tué sur le front le 10 octobre 1916.
Dans cette lettre destinée à sa famille, on apprend beaucoup sur les conditions de vie et du ressenti des soldats.
Que portes-tu de cet extrait ? Mes bons chers parents, ma bonne petite sœur, il me devient de plus en plus difficile de vous écrire. Il ne me reste pas un moment de libre. Nuit et jour, il faut être au travail ou au créneau. De repos, jamais.
Je pense que cette situation est invivable. Émile le dit lui-même, il n'a plus le temps pour écrire à sa famille et même de dormir, du fait que les demandes de garde sont de plus en plus fréquentes. Je vais te lire un extrait que j'ai choisi. Tu me diras ce que tu en penses. Le temps de manger aux heures de la soupe et au repos est terminé. Il faut reprendre son ouvrage ou sa garde. Songez que sur 24 heures, je dors 3 heures et encore, elles ne se suivent pas toujours.
Il nous dit qu'il ne dort plus que 3 heures, qui ne sont même pas consécutives, dans des conditions déplorables et sous les fracas incessants des canons. Ce qui, je pense, rendait le repos impossible. Dans mon extrait, il nous montre comment les officiers se comportaient avec eux. Il n'y a pas de discipline militaire, c'est le bagne, c'est l'esclavage. Les officiers ne sont point familiers, ce ne sont point ceux du début. Jeunes, ils veulent un grade toujours de plus en plus élevé. Il faut qu'ils se fassent remarquer par un acte de courage ou de la façon d'organiser défensivement un secteur. Qui paie cela ? Le soldat. La plupart n'ont aucune initiative. Ils commandent sans se rendre compte de la difficulté de la tâche ou de la corvée à accomplir. Et toi, t'en penses quoi ?
Ils apparentent ces combats au bagne à cause des officiers qui sont trop jeunes et immatures et qui ne pensent qu'à monter dans la hiérarchie militaire au détriment de leurs soldats et ne se rendent pas compte de la dangerosité et de la difficulté de la tâche en prenant leurs hommes pour des bêtes. Mon extrait serait un peu les conséquences du commandement absurde des officiers. En ce moment, nous faisons un effort surhumain. Il nous sera impossible de tenir longtemps. Le souffle se perd. Je ne veux pas m'étendre trop sur des faits que vous ne voudrez pas croire en étant bien véridique, mais je vous dirai que c'est honteux de mener des hommes de la sorte, de les considérer comme des bêtes.
Ils poussent leurs hommes à bout et les dirigent d'une façon si saugrenue qu'il serait impossible pour quelqu'un étranger à cette situation d'en concevoir l'idée même.
Alors que la fatigue se fait de plus en plus sentir, à la moindre faute, et au moindre faux pas, ils écopent de 8 jours de prison, ce qui me paraît anormalement injuste. Leur repas était médiocre. Nous sommes mal nourris, seul le pain est bon.
Il nous dit que la nourriture n'est absolument pas dotée de goût et que la seule chose à peu près comestible est le pain. Même pour entrer à leur base, la route est parsemée d'embûches. Nous avons marché 3 heures sous bois pour gagner le point de départ. La pluie et la neige tombaient, il a fallu regagner le temps perdu. Et par la route, nous avons monté en ligne. Mais le danger est grand pour faire passer un bataillon sur une route bien repérée. Nous avons été mitraillés, mais pas de pertes. Nous avons parcouru 14 km en deux pauses.
Effectivement, pour entrer au point de départ de la route est dure, sous des temps comme la pluie ou la neige, ou encore sous les feux ennemis. Encore plus pour des soldats exténués par des jours de combat. La propagande française fait croire aux civils que le soldat français est heureux au front. J'ai voulu vous montrer que ceux qui vous diront que le soldat n'est pas malheureux au front, quand elle a de la chance d'être valide encore, mériteraient qu'on ne les fréquente plus. Qu'ils viennent donc entendre seulement le canon au-dessus de leur tête, je suis persuadé qu'ils regagnent leur chef, soit au plus vite.
Il nous dit que les hauts gradés mentent aux familles des soldats en leur disant que la vie au front est facile, alors qu'il n'en est rien.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir.
Merci pour cette chronique. C'était très émouvant. Mais pas le temps pour l'émotion, car nous devons passer à la chronique de nos camarades, Lorenzo, Charles et Jeanne, sur la vie des résistants avec le régime de Vichy.
Les résistants sous la France de Vichy.
Bonjour à toutes et tous.
Coucou les gens.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pour les plus incultes, qu'est-ce que le régime de Vichy ?
Le régime de Vichy est donc un état autoritaire, instauré suite à l'armistice du 22 juin par le maréchal Philippe Pétain, souvent surnommé « gouvernement de la honte » du fait de sa soumission à l'Allemagne et de sa faible légitimité.
Vichy est d'ailleurs une ville thermale fondée par Napoléon III.
Oui, effectivement. Je disais donc que ce régime est de nature traditionnaliste, xénophobe et antisémite.
Oui, ce sont des fascistes en fait.
T'as fini de couper ?
Exact. Cependant, revenons à nos résistants.
Je passe donc la parole à Charles.
Tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Voici donc un extrait radiodiffusé à la BBC.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir, à se réunir à moi.
Il devient donc un héros de la lutte résistante française.
On a aussi de nombreux témoignages de membres du Comité français de la Libération nationale, tels que celui de Jean Moulin, écrit le 27 mai 1943. Ce n'est pas sans difficulté que je suis parvenu à consister et à réunir le Conseil de la Résistance.
D'ailleurs, savez-vous où et quand ce dernier a-t-il été arrêté ?
Non,
j'en souviens plus.
C'était à Caluire et Cuivre le 21 juin 1943, en même temps que Raymond Aubrac.
Toujours à la ramener, lui.
Clairement.
Bon, passons à la suite. Tiens, Lorenzo, tu as sûrement envie de parler ?
Oui, justement, parle-nous de Lucie et Raymond Aubrac.
Alors, c'est un couple de résistants français adhérant aux idées communistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, Raymond se fit arrêter par la Gestapo nazie. Heureusement, au boulevard des Hirondelles à Lyon, en 1944, Lucie Aubrac et ses camarades résistants prennent d'assaut un fourgon allemand. Elle sauve 14 résistants ainsi que son mari.
Oui, et puis le couple tente de fuir. Ils partent en cavale de village en village jusqu'à ce qu'un avion anglais ne vienne les chercher dans la nuit du 8 au 9 février 1944. Or, ce dernier est embourbé dans le sol, tous les habitants du village viennent les aider.
Et 48 heures plus tard, elle donne naissance à sa fille. Une fois au Royaume-Uni, elle travaille à la BBC et anime des émissions à destination de la France occupée.
C'est vraiment une personne inspirante, je trouve.
Moi aussi. Puis, lors de la libération du 8 mai 45, elle siège à l'Assemblée consultative avant la formation de la 4ème République.
Après, elle redevient professeure, comme avant la guerre.
Et c'est ainsi que s'achève notre chronique. Merci à tous nos auditeurs et auditrices.
Cela devait être difficile. Merci de nous avoir fait découvrir ce pan de la guerre 39-45. Maintenant, la première pause musicale avec le classique, la légendaire Back in Black de AC/DC.
I'm
c'est vraiment une magnifique chanson. Mais sans plus tarder, accueillons Lucas et Lien qui vont nous montrer l'horreur du débarquement à travers les témoignages de soldats.
Le débarquement, l'offensive qui a changé le cours de la guerre.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine et Anaïs de nous avoir accueillis sur le plateau. Aujourd'hui, nous allons vous parler du débarquement qui a eu lieu en été 1944. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était victime d'humiliation avant l'arrivée d'Adolf Hitler.
Mais dis-moi, Elien, quand est-ce qu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir ?
Très bonne question. Adolf Hitler arrive le 30 janvier 1933 au pouvoir. Le débarquement était très appréhendé par les soldats. Ils savaient tous que l'événement auquel ils allaient participer sera très dangereux. Ils vont risquer leur vie. Le livre « Les paroles du jour J » montre toutes les émotions de l'écrivain qui nous raconte ses préparatifs et la bataille de Normandie. Les soldats ont écrit au milieu des fronts leur dernière volonté de combattre. Les déclarations d'amour ou d'effroi, ces lettres permettaient de laisser une trace de chacun des soldats ayant la peur de ne pas revenir. Au fil du temps, les hommes, les enfants, les femmes étaient dans une tourmente. Le débarquement a commencé le 6 juin 1944 sur la place de Normandie. C'est la plus grande opération amphibie de tous les temps. Aujourd'hui encore, des millions de personnes viennent se recueillir et ainsi rendre hommage aux soldats qui ont libéré la France. Maintenant, je vais vous laisser avec Lucas. Il va vous raconter l'histoire d'un jeune soldat français.
Merci. Achille Muller a 99 ans et le dernier survivant des forces françaises libres à avoir participé au débarquement en juin 1944. Il nous dit « J'ai appris l'appel du général de Gaulle par le bouche-oreille. » À ses 15 ans, le 18 juin 1940, en Moselle, à Forbach, qui était allemande à cette époque, il passe la soirée avec sa famille à discuter de ce général qui a déserté et qui appelle les Français à le rejoindre. Le lendemain, il voit des affiches à tous les coins de rue qui disent « Nous vous avons fait l'honneur de vous faire allemand et vous aurez l'honneur de servir l'armée allemande. » Pour Achille Muller, c'en est trop. Le soir, il prend son vélo et entreprend de rejoindre l'Angleterre. Il arrivera finalement là-bas après 5000 km. En apprenant ça, le général de Gaulle demande à le rencontrer. Un honneur pour lui. Il commence rapidement une formation d'une des meilleurs soldats avec le SAS, Special Air Service, unité d'élite de parachutisme, mère des forces spéciales. Le 6 juin 1944, le débarquement commence. Achille Muller nous explique que sous l'émotion, en arrivant en France, il s'est allongé au sol et a pleuré toutes les larmes de son corps. Son travail était de récolter des informations, mais il a dû effectuer d'autres missions.
Peux-tu me donner un autre exemple de mission ?
À part les missions de renseignement, il a aussi libéré beaucoup de villages de l'emprise allemande. Il nous dit aussi que la guerre ne lui a jamais fait peur, mais qu'elle lui a plutôt rendu service.
J'en ferai des cauchemars. Merci les gars, je vais cauchemarder dans mon lit ce soir.
J'espère que tu vas pouvoir t'en remettre rapidement, car nous allons accueillir Angèle, Lou, Tessa et Anaïs, qui vont nous raconter les témoignages des survivants des camps de concentration.
Les témoignages des survivants des camps de concentration.
Bonjour, je m'appelle Angèle. Nous allons vous présenter avec Anaïs, Tessa et Lou les témoignages de Primo Levi, Julia Wallach, Ginette Kolinka et Simone Veil.
Tessa va nous présenter le témoignage de Ginette Kolinka.
Ginette Kolinka a été déportée en 1944 à 17 ans.
Au même moment que Simone Veil.
Elle nous raconte sa vie au camp de Auschwitz-Birkenau où elle a vécu dans la violence et la souffrance pendant un an et demi.
Elle rencontra d'ailleurs Simone Veil et deviendront de bonnes amies.
Quels sont les ressentis de Ginette face à tout ça ?
Elle a ressenti beaucoup d'humiliation et de soumission. Les femmes devaient se raser les cheveux et se mettre à nu devant tout le monde. Pour Ginette, c'était un grand moment de honte.
Est-ce qu'elle a été séparée de sa famille ?
Oui, dès son arrivée, elle a été séparée de son père et de son frère. Sauf qu'à ce moment-là, elle ne savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'elle les revoyait. Cette séparation a été très douloureuse.
Quel était son quotidien dans les camps de concentration ?
Eh bien, ils étaient battus tout le temps, par cruauté. Son travail était de casser des pierres et de les charger dans les wagons pour construire des routes. Il devait se lever à 3h30.
Merci pour le témoignage de Ginette Kolinka.
Maintenant, nous allons passer au témoignage de Primo Levi, raconté par Lou et Angèle. Qui était Primo Levi et sur quoi vas-tu te baser pour nous raconter son témoignage, Lou ?
Primo Levi était un auteur juif italien, né en 1919 à Turin et mort dans cette même ville en 1987. Pour raconter son témoignage, j'ai décidé d'utiliser comme base son livre « Si c'est un homme » publié en 1947. Son livre raconte son expérience dans le camp de concentration d'Auschwitz-Monowitz durant l'année 1944, donc un an avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Très bien. Quelles étaient les restrictions dans son camp ?
Dans son livre, Primo Levi explique que son camp possédait diverses restrictions plus insensées les unes que les autres. Il dit :
les interdictions sont innombrables. Interdiction de s'approcher à plus de 2 mètres des barbelés, de dormir avec sa veste, de mettre du papier ou de la paille sous ses habits pour se défendre du froid.
Dans les camps, y avait-il des enfants qui survivaient ?
Non, aucun enfant ne survivait au camp de concentration. D'ailleurs, dans son livre, Primo Levi nous explique que les nazis étaient particulièrement cruels envers les très jeunes enfants et qu'ils n'hésitaient pas à les tuer de sang-froid. Il dit
« Ainsi mourut la petite Emilia, âgée de 3 ans. Tant était évident aux yeux des Allemands la nécessité historique de mettre à mort les enfants des Juifs. »
Pouvaient-ils se faire soigner lorsqu'ils étaient blessés ou malades ?
C'était assez compliqué parce que le camp d'Auschwitz-Monowitz possédait bel et bien une infirmerie, mais même quand les blessés et les malades y étaient envoyés, ils avaient une restriction de temps qui faisait que s'ils la dépassaient et qu'ils n'étaient toujours pas guéris ou qu'ils refusaient de revenir travailler, on les exécutait. Il dit
« L'infirmerie se compose de 8 baraques. Elle contient en permanence un dixième de la population du camp, mais bien peu y séjourent plus de 15 jours et pas plus de 2 mois. » Délai au terme duquel nous sommes tenus de guérir ou de mourir.
Se faisait-il également battre ?
Effectivement, il se faisait battre, comme Juliette Kolinka, que Tessa a présenté précédemment. Il y avait plusieurs cas de figure. Dans son livre, il dit qu'il arrivait qu'ils se fassent battre quand ils ne montraient pas leur numéro qu'on leur avait tatoué à leur arrivée lorsqu'ils devaient aller chercher leur nourriture. Et il arrivait aussi que certains hommes, tant la faim était grande, décidaient de vendre un bout de leur chemise contre une ration de pain. Et la chemise appartenait au camp de concentration, donc quand les capots se rendaient compte que la chemise n'était plus là, on les frappait.
Merci Lou. Maintenant, passons au témoignage de Julia Wallach, présenté par Anaïs.
Je vais vous parler des témoignages poignants de Julia Wallach, jeune femme arrêtée à 17 ans et déportée.
Comment se déroulait l'arrivée dans les camps ?
Lorsqu'ils arrivaient le premier jour, on leur rasait la tête, et les deuxièmes, on leur ordonnait de se mettre nus devant tout le monde, avant de leur donner de nouveaux habits. Ceci était une épreuve particulièrement humiliante. Ils étaient numérotés.
Quelles étaient les conditions de vie des déportés ?
Les femmes et les hommes étaient séparés. Ils travaillaient pour pouvoir manger. Beaucoup mouraient du typhus ou de la malaria. Les déportés ne mangeaient jamais à leur faim et les femmes n'avaient pas leurs règles dues à la malnutrition. Ils ne voulaient plus prendre de douche de peur que ce soit des chambres à gaz. De plus, ils subissaient de nombreuses violences.
Est-ce qu'ils subissaient d'autres violences à part le fait d'être battus ?
Des fois, ils faisaient des sélections entre qui mourra et qui survivra dans les camps. On les humiliait constamment. Certaines femmes étaient violées par des commandantes allemandes et ils les envoyaient dans des chambres à gaz. La pire manière de les exterminer, c'était la route de la mort. La route de la mort est appelée comme ça à cause de ses 80 km de longueur. Ils marchaient sans s'arrêter, étaient très peu nourris et ne buvaient presque jamais. Ils mouraient donc principalement de faim, de soif ou de fatigue. Rares étaient ceux qui s'échappaient de cette route. Il n'y avait presque aucun survivant.
Est-ce qu'il y avait des moments heureux là-bas ?
Julia Wallach qualifiait certains moments de rigolade, malgré le fait que ça a été les plus sombres moments de sa vie.
Merci beaucoup Anaïs. Maintenant, passons à la conclusion d'Angèle.
Au total, il y a eu 245 000 survivants et 6 millions qui ont laissé leur vie dans les camps de concentration. Aujourd'hui, énormément de déportés témoignent de leur expérience pour que les nouvelles générations comprennent cette période importante afin d'éviter que cela se reproduise. Parmi eux, il y a des personnes qui sont devenues célèbres, comme Simone Veil qui est devenue un personnage politique qui a accompli énormément de choses. Malgré ses traumatismes et ses cauchemars sur le camp, elle se sera toujours battue tout au long de sa vie. Comme elle dit, « Nous sommes responsables de ce qui nous unira demain, alors il est important de ne pas reproduire les erreurs du passé. »
Merci Effie, vous avez réglé mon problème de cauchemar, je ne vais même pas pouvoir m'endormir. Eh bien pour m'aider, nous allons écouter « Où sont passés mes copains » de Edith Piaf.
Où sont-ils, tous mes copains, qui sont partis un matin faire la guerre ? Où sont-ils, tous ces petits gars qui chantait, on en reviendra, faut pas s'en faire. Les tambours et les clairons accompagnent leurs chansons dans l'aube claire. Où sont-ils, tous mes copains, qui sont partis un matin faire la guerre? Je connaissais des petits gars de Saint-Cloud. Je connaissais des gars de la Villette. Je connaissais des gars d'un peu partout. Pas un de ceux-là n'a fait la mauvaise tête. Il y en avait de Ménilmontant, il y en avait des gars de 20 ans. Tous ont répondu présent et sont partis en grandant. Où sont-ils tous mes copains qui sont partis un matin faire la guerre? Où sont-ils tous ces petits gars qui chantaient on en reviendra, faut pas s'en faire? Les tambours et les clairons accompagnaient leurs chansons dans le bec clair. Où sont-ils tous mes copains qui sont partis un matin faire la guerre? Je connaissais un petit gars de Saint-Cloud. Ses yeux rieurs m'avaient tourné la tête. Il était beau et me plaisait beaucoup. Quand je l'ai connu, pour moi ce fut ma fête. Comme les gars de Ménilmontant, il a répondu présent. Lui aussi avait 20 ans, il est parti en chantant. Où est-il, mon petit copain? Il est parti un matin faire la guerre. Où est-il, mon beau petit gars? Qui chantait, on en reviendra, faut pas s'en faire. Les tambours et les clairons accompagnaient sa chanson dans l'aube claire. Où est-il, mon petit copain? Qui est parti un matin faire la guerre? Mais je sais bien que les petits gars de Saint-Cloud, je sais qu'un jour les gars de la Villette, je sais qu'un jour les gars d'un peu partout retiendront alors, ce sera jour de fête. Tous les gars Ménilmontant ramèneront leurs 20 ans, tous ensemble seront présents et reviendront en chantant. Et voilà mes petits copains qui sont partis un matin faire la guerre. Et voilà tous ces petits gars qui chantaient on en reviendra, faut pas s'en faire. On entendra les garçons chanter de belles chansons, tout sera clair. Et voilà mes petits copains qui sont partis un matin faire la guerre. Et voilà.
Merci à Edith Piaf, car grâce à elle, je vais mieux. Comme ça, Antoine Acuona, Corentin et Tom vont pouvoir me traumatiser en se concentrant sur le camp d'Auschwitz.
Les survivants du camp de la mort.
Bonjour à tous, je suis Corentin Barnabé et aujourd'hui, avec mes camarades Tom et Antoine, nous allons vous présenter les histoires de rescapés du camp d'extermination d'Auschwitz. Alors, le premier témoignage est celui d'Ida Grinspan, qui a été prisonnière à Auschwitz à l'âge de 14 ans. Elle raconte « Je suis née le 19 novembre 1929. Mes parents ont quitté la Pologne dû à l'antisémitisme qui y grandissait. Ils m'ont appris le yiddish, ce qui m'a permis de comprendre les ordres donnés par les Allemands. Le 31 janvier 1944, je me fais arrêter par la gendarmerie française sous ordre des Allemands. Je fais ensuite partie du convoi pour Auschwitz du 10 février 1944. » Après une très longue marche, nous arrivons enfin dans le camp. La première chose qui m'a marquée, c'est l'état des maisons. Elles étaient d'une pauvreté énorme et d'une laideur extrême. Il y avait des personnes au pyjama rayé que l'on apercevait à peine. Ils étaient maigres, avaient un air triste. Cela m'a donné une anxiété énorme et m'a fait comprendre que ce ne serait pas une partie de plaisir.
Le deuxième témoignage, c'est celui de Christiane Borras, déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943. Christiane Borras, de son résistante Cécile, est déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943. Quand ils arrivaient à Auschwitz, ils ne savaient pas qu'ils étaient là pour mourir, et non pour travailler. Là-bas, c'est la déshumanisation totale, elle nous dira. Elle nous dira que les prisonniers sont tatoués et numérotés. Ils ne sont rien d'autre que des numéros aux yeux des SS. Ils souffrent de faim, de soif, subissant des coups, constamment dans la peur des fours et des chambres à gaz. Ils vivaient de façon médiocre. Ils faisaient leurs besoins dans la neige, ils sentaient la chair humaine brûler. Ils ne se lavaient pas. Ils étaient constamment poursuivis par la mort pour rien. Elle dira, les larmes ne coulent plus. Elle nous confiait avoir fait des cauchemars pendant 20 ans où les SS la poursuivaient. Des cauchemars horribles qui se sont arrêtés lorsqu'elle les a affrontés et tués dans son sommeil.
Le dernier témoignage est celui de Charles Palin, déporté en tant que juif avec sa mère et sa jeune sœur Lily. Charles est l'enfant de parents juifs et polonais. Avec la guerre, il part pour la région lyonnaise. Il y lie des contacts avec la MOI, mouvement de résistance de la main-d'œuvre immigrée. Le 17 août 1943, il est arrêté par la Gestapo à Lyon, sur dénonciation avec sa mère et sa jeune sœur Lily. Ils connaissent la prison, Montluc, puis le camp de Drancy. Tous les trois sont déportés en octobre 1943 par le convoi 60. À l'arrivée, lors de la sélection, il est séparé de sa mère et de sa sœur. Elles sont assassinées dès ce jour à Birkenau. Charles est orienté vers le travail forcé et transféré au camp de Buna-Monowitz. Il y demeure jusqu'en janvier 1945. La marche de la mort le conduit à Buchenwald. Il y est libéré. En 1949, il participe à la création du MARAP, dont il est le secrétaire général pendant 20 ans et l'un des présidents d'honneur. Il a été à l'origine de la fondation de l'amicale du camp de Buna-Monowitz, association qui a rejoint et constitué l'union déportée d'Auschwitz au début des années 2000, et dont Charles était l'un des vice-présidents.
Merci de nous avoir écoutés.
Oui, j'en ai des frissons. Et je pense que ça va être pire, car la prochaine chronique sera sur la vie des enfants juifs pendant la guerre 39-45.
Une enfance volée par la Shoah.
Bonjour à toutes et tous, je suis Léane. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je m'appuierai sur le témoignage poignant de Rachel Jedinak. Je vais commencer par vous la présenter. Rachel Jedinak est née à Paris en 1934 dans une famille d'origine juive. Son père et sa mère ont tous les deux été déportés à Auschwitz en 1942. La déportation de ses parents a marqué le début d'une période extrêmement difficile pour Rachel et sa sœur Louise. Rachel a survécu à la rafle du Vélodrome d'hiver en juillet 1942, un événement tragique où des milliers de Juifs ont été arrêtés et déportés. Rachel et sa sœur Louise ont réussi à s'échapper du Vélodrome d'hiver grâce au sacrifice de leur mère. Je vais vous lire son témoignage. « Nous ne voulions pas la quitter et je m'agrippais à sa jupe. Alors, dans un geste terrible, elle nous a giflés toutes les deux. Sous le choc, Louise m'a empoigné la main et entraîné vers la sortie. Deux policiers étaient près de la porte. Ils ont volontairement détourné le regard et nous ont laissé sortir sans un mot. Avant que la porte ne se referme sur cette foule amassée, je me suis retournée une dernière fois et j'ai vu ma mère s'effondrer dans les bras d'une voisine. Je n'ai pas compris tout de suite le sens de cette gifle. J'en ai d'abord beaucoup voulu à ma mère, avant de comprendre qu'il s'agissait d'une magnifique preuve d'amour. » Fin de citation. Après son évasion, Rachel a dû vivre sous une fausse identité, celle de Rolande Sanier. Elle a été confiée à une nourrice qui, en découvrant par hasard sa véritable identité, est devenue violente et abusive. Elle raconte « À partir de ce jour-là, cette femme brutale m'a constamment menacée de me dénoncer. J'ai vécu la peur au ventre, subissant au quotidien les coups et l'humiliation. Je n'ai perdu la parole, enfermée dans ma douleur. » Malgré ces épreuves, Rachel Jedinak a survécu et a consacré sa vie à témoigner de ce qu'elle a vécu. Elle a écrit le livre « Nous étions seulement des enfants » pour rendre hommage aux enfants juifs victimes de la Shoah et pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée. Aujourd'hui, elle a 90 ans et continue de raconter son histoire. Son témoignage est un rappel poignant de la résilience et du courage des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Merci de m'avoir écouté.
La pauvre petite, elle a vécu tellement de choses au REP. Maintenant, nous allons écouter Le Soldat de Florent Pagny.
À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison et la fleur au canon, Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi. Mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat, la 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 la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois. Je ne suis qu'un soldat. La 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 la. Non, je ne reviendrai pas. La 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 la. Je n'étais qu'un soldat. La 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 la. Prends soin de toi.
Je suis trop émotif pour le faire. Pour finir, fais-le toi.
Très bien, prends un mouchoir. Je vous remercie toutes et tous d'être venus sur le plateau. Et surtout un grand merci à Radio Campus pour nous avoir laissé nous exprimer. Et à bientôt.
À bientôt.
Merci. La guerre.
Des blessés.
La mort. La violence.
Les froids. Les témoignages.
La troisième pavin présente Guerre mondiale, le choc des générations. Sur Radio Campus. 93.3.